la matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. En ce début d'année, alors que nous avions bien besoin que des fées se penchent sur nos berceaux, je voudrais célébrer une rencontre exceptionnellement réussie qui vient d'avoir lieu entre le grand fabuliste du XVIIe siècle, Charles Perrault, et les créateurs que l'on réunit parfois sous le nom insatisfaisant d'art brut. Ce sont les singuliers, ceux qui, séparés des grands mouvements qui leur sont contemporains, inventent des mondes stupéfiants, douloureux ou merveilleux, et construisent avec des moyens précaires une réalité autre à laquelle nous n'avons ordinairement pas accès. Le livre, publié par les éditions Diane de Sellier, présente l'intégralité des 11 contes de Charles Perrault. Il est intitulé « Les contes de Perrault illustrés par l'art brut ». 3 contes en vers, publiés en 1694, et 8 contes en prose, connus sous le nom des contes de la mer Loye, ou histoires ou contes du temps passé avec des moralités. Leurs œuvres de 84 artistes donc ont été installées. Ils sont des artistes de toute nationalité qui, du 19e siècle à peu près aujourd'hui, ont été associés avec une précision minutieuse en regard des illustrations, en regard des textes de ces contes. La surprise est qu'incontestablement, ces récits d'origine populaire et ces créateurs se rejoignent d'une manière étrange, comme s'ils avaient la même origine psychique. Il est impossible, une fois tournée la page de l'illustration qui évoque tel prince ou telle fée ou telle bergère, de continuer la lecture sans avoir en tête cette apparition qui demeure l'accompagnatrice définitive des images mentales que le texte fait surgir. Pour nous, c'est l'occasion de nous interroger sur ces artistes singuliers dans leur relation avec notre culture plus ou trop académique, d'observer comment ils la revivifient. C'est aussi l'occasion d'évoquer la personnalité de Charles Perrault, dont l'importance historique à Versailles, à l'Académie ou dans les querelles littéraires du règne de Louis XIV déborde sa célébrité actuelle, plus étroitement liée à ses fables. Mais avant de vous présenter mes invités pour commenter cette aventure, écoutons un conte de Charles Perrault.
Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. Une fée qui se trouva à sa naissance assura qu'il ne laisserait pas d'être aimable, parce qu'il aurait beaucoup d'esprit. Elle ajouta même qu'il pourrait, en vertu du don qu'elle venait de lui faire, donner autant d'esprit qu'il en aurait à la personne qu'il aimerait le mieux. Tout cela consola un peu la pauvre reine, qui était bien affligée d'avoir mis au monde un si vilain marmot. Il est vrai que cet enfant ne commença pas plus tôt à parler qu'il dit 1000 jolies choses et qu'il avait dans toutes ses actions je ne sais quoi de si spirituel qu'on en était charmé. J'oubliais de dire qu'il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de la famille.
Et pour évoquer cette aventure et tout cela, bien sûr, avec nous, Bernadette Bricou. Bonjour Bernadette, comment allez-vous?
Bonjour Jean, je vais très bien puisque nous allons feuilleter, explorer ensemble ce livre magnifique.
C'est un livre magnifique, donc vous êtes vous-même préfacière de ce livre, vous êtes professeure émérite à l'Université de Paris, vous êtes chercheuse au CNRS, essayiste, vous travaillez depuis très longtemps sur les contes et leur impact sur nous, lecteurs. Est-ce que vous trouvez, Bernadette, avant que nous rejoignions Bruno Decharme qui va nous accompagner et qui lui aussi a travaillé sur ce livre, est-ce que vous trouvez que l'association entre les sources populaires de Charles Perrault et les travaux des artistes de l'art brut, comme on dit, peut-être à tort, est-ce que vous trouvez que c'est une intuition juste?
Ah, je trouve que c'est une intuition visionnaire parce que Il y a entre ces sources orales, donc qui sont des œuvres finalement qui ont été longtemps méprisées par la culture savante, ces contes de vieilles, de servantes, de nourrices, ces contes à dormir debout, ces contes de ma mère-loi, comme le disaient les dictionnaires de l'époque de Perrault, et ces œuvres de l'art brut, qui sont souvent des œuvres sans titre, dont les auteurs ne nous sont pas connus et qui ont travaillé dans une forme de contrainte et de clandestinité très forte, il y a véritablement des effets d'écho et des résonances tout à fait sidérantes.
Moi, j'étais aussi sidéré par cela en voyant le livre, mais cela répond aussi probablement à un travail très précis qui a été fait par Diane de Sellier et Bruno Decharme, puisque Bruno Decharme, vous qui êtes cinéaste, producteur, mais surtout collectionneur depuis les années 70, de l'aventure de ces singuliers de l'art, et qui avez réuni autour de vous des milliers d'œuvres qui aujourd'hui font référence, et là vraiment là, une des collections de référence au monde sur cette histoire de l'art brut, vous avez travaillé très précisément avec Diane de Sellier sur l'édition du livre et le placement des œuvres en face des fragments du texte, si j'ai bien compris.
Oui, alors ça a été une rencontre assez évidemment formidable, parce que a priori j'avais non pas des doutes, mais je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être cette histoire où on va encore mélanger et faire de la bouillie. Et puis j'ai rencontré Diane et son équipe, et puis ils nous ont montré comme ça une première sélection d'œuvres, et puis de fil en aiguille, évidemment la curiosité est venue comme ça au premier plan, et puis on s'est dit peut-être que là on pourrait aller peut-être plus vers cette direction-là, puis peut-être là. Et donc, sur un espèce de brief qui m'a été communiqué par l'équipe, je leur ai proposé un certain nombre d'œuvres qui venaient de ma collection, mais de celle de Lausanne, de celle du LAM et d'autres collectionneurs. Et voilà, et ça s'est fait vraiment, effectivement, de fil en aiguille avec une... Et j'ai été extrêmement surpris de l'intuition extraordinaire que Diane a eue de mettre au regard ses œuvres de l'art brut et ses contes. Et ça fonctionne étonnamment, à telle enseigne maintenant que quand je vois, par exemple, une œuvre de Bill Traylor, Le Petit Chaperon Rouge, qui est une figure, une petite fille ou un personnage habillé en rouge, je peux plus m'empêcher de l'appeler Le Petit Chaperon Rouge, alors que pour Bill Traylor, c'était une figure en rouge comme ça. Donc il y a eu une sorte d'osmose et de dialogue qui a opéré et qui fait que le résultat est vraiment assez admirable.
Dans le livre, l'image de Bill Traylor que vous indiquez, alors vous allez nous dire qui est Bill Traylor, mais c'est juste en face de la phrase « Pourtant, on l'appelait le petit chaperon rouge », donc il était une fois une petite fille de village, etc. Et c'est une feuille très simple, parce que le personnage a un bras sur la hanche, l'autre bras en l'air, il est entièrement habillé de rouge, les deux jambes noires en fuseau. C'est une image très simple et elle a une force mentale, une force, elle s'impose à notre psyché tout de suite. Et effectivement, c'est à bien avec ce personnage qu'on continue à lire le conte. Et qui est ce Bill Traylor, dites-moi.
Alors, ce Bill Traylor était, comme les Américains appellent, un Afro-Américain qui est né à la fin de l'ère esclavagiste, donc qui a été libéré. Mais la libération à cette époque souvent s'accompagnait certes de liberté, mais aussi de gens qui étaient poussés à la rue puisqu'ils n'avaient plus aucune racine. Donc, il a été une sorte de SDF toute sa vie dans les rues de Montgomery au sud des États-Unis. Et l'âge venant, vraiment très âgé, vers 80 ans, il s'est mis comme ça à dessiner dans la rue pour des passants, contre $1 ou de quoi subvenir à ses besoins. Et il a fait une œuvre absolument extraordinaire, toujours simple, avec des personnages comme ça, simplifiés à l'extrême, presque des figures fantomatiques qui représentent la vie rurale, qui représentent la vie de quartier, enfin très simple. Et il a été découvert par un collectionneur dans les années 60, et cette œuvre a été sauvée grâce à ce monsieur qui s'appelait Monsieur Shannon. Et aujourd'hui, ça c'est pour la petite histoire des collectionneurs, ça fait la fierté des grands musées des grands musées et des grandes collections. Donc c'est une espèce d'histoire peut-être emblématique de ce que on appelle l'art brut.
Bernadette Bricout, quand Bruno de Charme va chercher ici et là une œuvre, un artiste marginal et qui voit qu'il y a des groupes de personnes qui s'y intéressent, est-ce que on pourrait faire un parallèle avec Charles Perrault? Comment est-ce que Charles Perrault est allé à la recherche des histoires? Parce que je suppose que il ne les a pas inventées, les sources existaient.
Ah, les sources existent et tous ces contes sont inscrit dans une mémoire longue qui est vraiment la mémoire d'une tradition orale transmise de la bouche à l'oreille depuis la nuit des temps, en tout cas depuis des siècles et pour certains contes depuis plusieurs millénaires. La question que vous posez elle est en elle-même très complexe parce que même sur la paternité des contes de Perrault et du vivant même de Perrault, on s'est posé la question de savoir qui les avait recueillis. Et sur ce point, je ne peux évidemment que renvoyer au travail magnifique de quelqu'un qui fut mon maître et mon ami, Marc Soriano. Marc Soriano qui plaçait cette œuvre sous le signe d'une double paternité, celle de Perrault, dont on est sûr que l'écriture, que le travail d'écriture et d'entrée en littérature de ses contes porte véritablement sa marque, et puis celle de Pierre d'Armancourt, qui a signé un certain nombre de ses contes, qui du vivant de Perrault en a assumé la paternité, un fils perdu tragiquement, mais qui a pu collecter ses contes aux bouches même des nourrices, c'est-à-dire de ces femmes dont, parce que très souvent le conte est associé à une parole de femme, au moins dans les stéréotypes des dictionnaires, de ces femmes que méprisait le dictionnaire de l'Académie. Mais Cicéron appelait déjà les contes des fabula et aniles, vous voyez, c'est-à-dire des récits de vieilles, et des récits de vieilles qui n'ont peut-être plus toute leur tête. Donc, il y a un travail d'exhumation de la mémoire et de redécouverte qu'on pourrait associer à la redécouverte des œuvres de ces grands artistes de l'art brut dont très souvent les œuvres sont menacées d'oubli.
Les contes, le travail qui a été fait sur les contes, vous considérez que Charles Perrault aurait fait, ou son entourage, ou son fils, ou autour de lui, aurait fait un travail qui serait presque un travail d'ethnologue, ou un petit peu comme les travaux qui ont été faits en Finlande et en Russie autour du Kalevala, tout d'un coup exhumer une littérature orale et lui donner une forme?
Alors, c'est évidemment difficile parce que nous n'avons pas les textes oraux recueillis par Pierre d'Armancourt ou par Charles Perrault, mais on trouve, par exemple, dans les marges du manuscrit dédié à la grande mademoiselle sœur du roi en 1695, des indications qui montrent bien que la personne est à l'écoute du circuit de transmission du conte, par exemple, pour ce petit chaperon rouge que l'on évoquait à l'instant, lorsque le loup dit, plutôt lorsque la petite fille dit « Oh, grand-mère, que vous avez de grandes dents, c'est pour te manger », on trouve dans la marge du manuscrit de Perrault, on prononce ces mots d'une voix forte, comme si le loup l'allait manger. Et vous voyez, le « on prononce » atteste déjà la vitalité d'une tradition orale à l'écoute de laquelle on se met.
Oui, ça c'est très intéressant. C'est ce Perrault quand même. C'est étrange son intérêt pour la culture populaire. Au fond, on pourrait se dire il est un petit peu comme Dubuffet s'intéressant à l'art brut, si on continuait ce parallèle, parce que lui-même, il faut que vous nous le résumiez en quelques instants pour qu'on plante le personnage avant de poursuivre notre aventure dans les images, était un des grands érudits, des personnages les plus cultivés de son époque.
C'est un formidable érudit. Il est avocat, il est écrivain, c'est un fin latiniste. On lui doit d'ailleurs une Énéide travestie. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard à propos de la Serane. Il a été en charge par Colbert de la politique artistique et littéraire de Louis XIV, par exemple, pour ce qui concerne l'élaboration du labyrinthe de Versailles. Il était alors premier commis à la surintendance des bâtiments du roi, donc c'est vraiment une responsabilité considérable, et c'est lui qui a eu l'idée d'un projet qui était placé sous la double égide d'Ésope et d'Apollon, donc à la fois le fabuliste et le mythe, et qui a fait installer 38 fontaines pour scander un parcours narratif qui était celui d'Ésope, le fabuliste, en même temps qu'un itinéraire amoureux.
C'est le fameux labyrinthe de Versailles qui a disparu aujourd'hui, qui a été disparu à l'époque de Louis XVI, mais qui était composé de toutes ces fontaines avec tous les animaux, n'est-ce pas,
fontaines avec des animaux qui a donné lieu, d'ailleurs, labyrinthe aujourd'hui disparu, mais qui a donné lieu à une multitude d'interprétations lui aussi, parce que il était énigmatique dans son projet.
Alors, je sais qu'il y a quelques images auxquelles vous êtes particulièrement attaché. Alors, il y en a une, puisqu'on était parti sur les aventures du petit chaperon rouge, qui est l'autre personnage. Au fond, il y a trois personnages majeurs dans le petit chaperon rouge, mais l'autre personnage, c'est le loup. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère Grand. Il heurte, toc toc. Et vous avez aimé, je crois, le travail de Jimmy Lee Sudduth, qui représente ce loup. Dites-nous pourquoi.
Ah, je trouve que, je crois que c'est d'ailleurs une image qui fascine aussi Diane de Sellier. Il est extraordinaire parce qu'il semble surgir à la fois, bien entendu, du conte, mais c'est en même temps une image qui pourrait être une image de cauchemar. Et pour moi, il fait très étonnamment écho à un texte très court, je ne résiste pas au bonheur de vous le lire. Le loup a les yeux bleus et étincelants, les dents inégales, rondes, aiguës et serrées, l'ouverture de la gueule grande et le cou si court qu'on ne le peut remuer, de sorte que lorsqu'il veut regarder de côté, il est obligé de tourner tout le corps. Et c'est exactement ce que l'on voit dans cette image, avec un loup qui nous regarde de face. Et on sait combien le regard du loup a de pouvoir menaçant. Sa cervelle, à ce qu'on dit, croît et décroît avec le cours de la lune. Eh bien, cette description, vous voyez, n'est pas issue du tout d'une fantasmagorie, mais du dictionnaire de Richelet, paru en 1680, et il nous dit assez à quel point ce loup est un animal mythique. Alors, quant au regard du loup, puisqu'il regarde de face dans ce dessin, le lecteur, eh bien, le regard du loup, on pensait que le loup avait le pouvoir de priver de voix ceux qu'il regardait le premier. Ce qui explique, par exemple, que dans le conte, dans les versions orales, lorsque la petite fille arrive à la maison de la grand-mère, le loup déguisé en grand-mère lui dit, comme tu es enroué, mon enfant, aurais-tu rencontré le loup dans le chemin? L'enfant qui a rencontré le loup n'a plus de voix pour le dire, ce qui éveille d'ailleurs aujourd'hui des résonances très fortes par rapport aux victimes de l'inceste.
Ah, extraordinaire. Bruno de Charme, vous connaissez bien, puisque je crois que cette œuvre est dans votre collection d'ailleurs, Jimmy Lee Sudduth. Vous pouvez nous décrire cette œuvre et nous dire pourquoi elle vous a retenu. Et qui est le personnage?
Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Jimmy Lee Sudduth a fait une série de ce qu'il a appelé les totos. Alors, les totos, il appelait ça des totos. Alors, est-ce que ce sont des chiens? Est-ce que ce sont des chiens-loups? Est-ce que c'est des loups-chiens? On ne saura jamais. Mais il y avait effectivement ce côté menaçant. Il en a fait toute une série, et c'est probablement ce qu'il y a de plus intéressant dans sa production. C'était également un Afro-Américain du sud des États-Unis qui vivait dans l'Alabama. Et ce qui est effectivement, on en parlait tout à l'heure, Jean, c'est que c'est ce loup, en quelque sorte, est effectivement négatif, c'est-à-dire que ce loup qui devrait être noir se retrouve blanc sur un fond noir. Donc c'est totalement saisissant et c'est désarçonnant, parce qu'effectivement, sans même s'en rendre compte, on capte une espèce d'anormalité, si je peux dire, et qui le rend encore plus étrange, encore plus menaçant et encore plus prêt à vous sauter à la gorge. Et en même temps, peut-être que ce Toto était là aussi pour protéger ce Jimmy Lee Sudduth d'un environnement qui était évidemment à l'époque, comme on peut l'imaginer, extrêmement hostile, puisqu'il avait vécu sa vie adulte dans les années 20, 30, 40 aux États-Unis, avec tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on sait de la violence qui pouvait y avoir à cette époque.
Il y a cette inversion que vous venez de décrire, mais c'est vrai qu'elle fait tout de suite empreinte mentalement. On est imprégné par cette image et ça ne peut pas être une autre image ou une autre représentation du loup qui puisse venir pour illustrer cela. Vous-même, quand vous vous êtes passionné depuis plus de 40 ans pour ces artistes, qu'est-ce que vous avez trouvé dans cet art des singuliers que vous ne trouviez peut-être pas ou moins dans l'art de l'histoire ou retenu par l'histoire?
Alors il y a toujours une sorte de décalage qui est extrêmement perturbant, c'est-à-dire on reconnaît évidemment des formes qu'on voit dans d'autres formes d'art, évidemment, puisque ces gens, s'ils sont indemnes de culture artistique, bien entendu, ils ne le sont pas de la culture, puisqu'ils vivent dans notre monde, ils regardent les journaux, ils regardent des images, aujourd'hui la télévision, etc. Mais ils ont une capacité de détourner le réel et de nous proposer une autre lecture du monde. Et c'est ça qui me paraît complètement fascinant. Et peut-être que le lien qui fonctionne entre Perrault et eux, c'est qu'on est dans des formes, pour certains, des formes quasiment archaïques, c'est-à-dire des constructions mentales vraiment de, je dirais presque, de la toute petite enfance, puisque souvent, pour certains de ces artistes de l'art brut, on est face à des gens qui ont des constructions mentales particulières, schizophréniques, sans rentrer trop dans le détail de la maladie, bien entendu, mais il nous propose des formes qui tout d'un coup font écho en nous comme une sorte de réminiscence de la petite enfance. Donc forcément, ces notions de terreur, ces notions de décalage, ces notions d'inquiétante étrangeté, comme on dit, fonctionnent extraordinairement bien avec cette histoire de Perrault. Et encore une fois, je crois que Diane a eu une intuition assez extraordinaire. Vraiment, parce que c'est de l'ordre de l'intuition, c'était vraiment pas gagné. Voilà, donc c'est tout ce climat de bizarrerie, de décalage qui, moi, me passionne complètement, encore une fois, sachant qu'ils sont, et je dirais, quand je dis qu'ils sont imprégnés de culture, quelque part, ils nous disent sur le monde des vérités, des formes de vérité. Il y a un savoir. Il y a un savoir chez ces gens. Il y a un savoir chez Adolf Wolfli, qui a passé 30 ans ou 40 ans dans un hôpital psychiatrique et qui nous raconte le monde. Et je pense que il faut les prendre au sérieux, au premier degré. Non, oui, pas au premier degré de la moquerie, le fou de service. Non, ils nous disent des choses, et quand on a côtoyé un petit peu, ce qui est mon cas et d'autres, hein, des gens qui ont ce type de construction mentale, on est fasciné par la justesse, souvent, de leurs propos, même si c'est enrobé dans un discours et une forme de délire. Mais le délire est probablement aussi une manière d'accéder à une forme de savoir, en tout cas, sinon de vérité.
Alors Bernadette Bricout, vous venez d'entendre cela. Je trouve que c'est assez intéressant, la vérité que l'on a, la justesse qu'on arrive à saisir chez ces artistes. Et au fond, je suis surpris de penser que Charles Perrault est presque son autre, il y a une grande contemporaine, hein, qui est Madame Delaunay, par exemple, qui presque à quelques années près, publie au même moment des contes. Tout d'un coup, il y a un intérêt très fort d'une société. Il faudra attendre le 19e siècle pour que ça se développe avec Grimm et Andersen. Mais à la fin du 17e, il y a ce moment très fort. Comment se fait-il que ça soit à ce moment-là, où la construction du savoir s'organise autour de l'académie, que une mode pour ces vérités autres surgit?
Alors, on va parler bien sûr de la querelle des anciens et des modernes, mais je suis très touchée par ce que vient de dire Bruno de Charme, si vous le permettez.
Bien
c'est
sûr.
Aussi le bonheur de la conversation. À bâton rompu, comme on dit. Et en fait, je suis très touchée. Ça résonne beaucoup par rapport à ce qu'il nous dit justement de cet artiste qui va être obligé de se, en quelque sorte, de se protéger du noir. Je suis toujours sur la splendide image de notre loup blanc qui surgit de la nuit. Et il parlait de la nuit de l'enfance et des cauchemars de l'enfance. Je crois que par-delà les cauchemars de l'enfance, il y a pour les artistes de l'art brut comme pour les compteurs de transmission orale, quelque chose qui est de l'ordre d'une nuit primordiale et qui est peut-être la nuit dont nous sommes issus. Je ne parle pas seulement, de la nuit utérine, puisque lorsqu'on vient au monde, on sort de la nuit pour venir brutalement à la lumière, mais je suis de celles et de ceux qui pensent que les premiers récits ont peut-être été inventés dans les sociétés humaines pour conjurer des peurs fondamentales comme celle que, par exemple, le soleil ne revienne pas. Et si nous étions plongés dans une nuit éternelle? Et Le Loup de Jimmy Lee Sawdust nous parle aussi de cela. Alors, pardonnez-moi ce...
Non, au contraire, c'est très bien.
Mais il me semble qu'il y a vraiment plusieurs registres d'enfance. Il y a notre enfance, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'enfance de l'art, et puis il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre des peurs fondamentales de l'humanité.
Pardon. Non, continuez, je vous ai interrompu, mais continuez.
Allons-y. Pour ce qui concerne donc la question que vous posiez, il faut peut-être évidemment resituer l'intérêt que Charles Perrault porte au conte, en le mettant en parallèle avec sa prise de position dans la querelle des anciens et des modernes. Il était de ceux qui, avec Molière et contre les anciens, dont La Fontaine et La Bruyère, avec Nicolas Boileau en chef de file et en porte-parole privilégié, considéraient, il y avait les anciens qui considéraient que la création littéraire doit s'inscrire dans la continuité des auteurs de l'Antiquité. Et Perrault, il est de ceux qui pensent au contraire que l'innovation est au cœur de la création littéraire et il est là pour valoriser des formes artistiques qui seront des formes nouvelles. Or, les contes présentent cet avantage considérable d'être en quelque sorte des matrices de l'imaginaire, des partitions symboliques que l'on peut réinvestir ou revisiter comme un musicien le ferait de sa partition. Et je pense que l'intérêt pour les contes vient de là. Des formes stylisées, épurées, qui peuvent être des matrices pour l'imaginaire et qui sont véritablement des supports de création et d'innovation.
Alors, c'est certain que ça a une relation. En même temps, c'était peut-être l'occasion de sortir des grands sujets imposés qui étaient soit la mythologie, soit le religieux. Au fond, c'était l'apparition du profane dans la grande littérature de l'époque, non ?
Vous avez tout à fait raison. On quitte, au fond, des modèles qui sont ceux de la culture savante. N'oublions pas que Perrault est académicien. Les modèles qui sont valorisés par la culture majuscule, celle qui a pignon sur rue, pour se tourner vers des récits qui sont des récits obscurs, des récits presque clandestins, des récits que l'on n'entend pas à la cour, bien entendu, jusqu'ici, puisque ce sont des récits populaires et des récits qui ont aussi une vocation subversive. Je pense à ce que disait un conteur breton à Pierre Jacques Elias, qui lui disait « Mais pourquoi comptez-vous ? » Et le conteur avait répondu « Si je compte, c'est pour réagir contre tout ce qui nous brime. » Et voilà, je crois, il me semble une parole, mais Bruno nous le confirmera peut-être, que nombre d'artistes de l'art brut pourraient reprendre à leur compte. Contre ce qui brime.
Qu'en pensez-vous, Bruno ?
Je ne peux que... J'ai envie de dire, je bois que du petit lait en entendant tout ça. Non, mais parce que ce qui me réjouit dans cette édition, c'est que c'est une autre manière encore de parler de ce sujet qui, évidemment, me passionne. Et c'est une autre porte, un autre regard, et voilà, dans ce que vous dites, il y a des échos de toutes parts sur des réflexions et des mises en perspective de ce sujet de l'art brut. Je trouve ça complètement passionnant, et c'est ce livre est un véritable apport aussi à une manière de parler de ce sujet, de ces artistes et de la manière dont ils envisagent le monde. Et tout ce que vous dites sur Perrault et sur le conte s'applique quasiment en décalque à ces artistes d'un genre particulier, je dirais.
Alors Bruno, donc dans cette tout à l'heure est arrivé dans vos propos le mot de l'art des fous, mais en même temps que vous avez tout de suite modéré, et puis dans les propos tout à l'heure de Bernadette, il y avait aussi une relation qui était faite entre l'enfance de l'humanité et le monde de l'enfance, et qui était assez intéressant, ce qui veut dire que il y a des sortes de grandes questions primordiales qui apparaissent là. Et donc, si Dubuffet est l'une des personnes, on va l'écouter tout à l'heure, qui a ouvert sans doute notre regard sur ces choses-là, un autre en parle beaucoup et parfois bien, que vous connaissez bien évidemment, c'est André Malraux, et j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce que nous allons entendre. Nous l'écoutons.
L'unité perdue, lorsqu'un fou la reconquiert dans sa peinture, y prend un accent saisissant, comme la recherche furieuse d'une accessible liberté qui y prend un accent pathétique. Le fou tente de créer son monde en face de celui qui lui est imposé, ce que font aussi sur un autre plan les grands artistes. Il lui arrive de faire surgir certains éléments primordiaux de la sensibilité humaine et de trouver une angoissante puissance dans l'archétype qu'une vague de folie jette soudain sur le sable. Encore faut-il que l'archétype soit peinture, car les monstres des profondeurs grouillent dans les dessins des asiles. Séraphine n'est pas plus une folle que Rousseau n'est un naïf. Il n'y a pas de problème de l'art des fous, pas de mise en question de l'art par la folie. Il y a seulement des fous de talent. Si poignante que soit l'expression d'un être traqué, elle ne devient pas celle de Pascal. Pour peindre les corbeaux, il ne suffit pas d'être fou, il faut encore être Van Gogh. Nous ne sommes pas retenus par l'expression de la plus complète folie, mais par l'expression la plus complète d'un homme, grâce à la folie parfois.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière, et nous sommes en train de parler d'un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Diane de Sellier, Les Contes de Perrault, illustrés par l'art brut, ce qui nous permet d'aborder à la fois la transformation de l'esthétique par les contes au XVIIe siècle, et puis la question de l'art brut, ou plus exactement de l'art de ces grands singuliers. Est-ce que, Bruno de Charme, est-ce que ça vous a choqué, ce propos d'André Malraux?
Alors non, c'est pas que ça me choque pas, parce qu'effectivement la folie ne garantit pas le talent, et bien entendu. Alors toute la grande complexité du sujet, c'est à la fois de reconnaître chez certains de ces artistes dits fous une forme de structure mentale très particulière, et cette structure mentale même ne garantit pas le talent, mais en même temps c'est aussi parce que elle est ainsi que cette grammaire particulière, ce vocabulaire particulier, cette façon qu'ils ont de raconter le monde est rendu possible. Wolfli, certes, on parle toujours de lui comme figure emblématique, nous raconte l'histoire du monde aussi parce que il a un imaginaire tout à fait particulier, et que ça, on le classe malgré tout dans ce qu'on peut appeler au sens large du terme de la folie. Mais moi, si je prends le mot folie, je le prendrais pas d'une façon médicale, je le prendrais dans cette incandescence mentale qui fait que certaines personnes ont une capacité de transgresser radicalement la norme, d'aller au-delà de tous les possibles, au-delà des frontières, et de nous proposer une autre vision du monde. Alors voilà, moi je suis collectionneur et je ne suis pas psychiatre, donc je serai toujours du côté, mais Dubuffet l'était aussi, hein. Dubuffet n'a jamais fait d'ailleurs il le disait lui-même dans ses textes, il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des malades du genou. Donc ça veut bien dire que la maladie mentale ne garantit strictement rien, mais force est de reconnaître que dans les grands figures de l'art brut, on les trouve principalement chez ce qu'on a pu appeler des malades mentaux. Voilà. Alors c'est pour ça que tout ça mérite vide de trouver une sorte de d'équilibre entre l'analyse esthétique, c'est celle qui m'intéresse, et ne pas confondre avec effectivement le point de vue médical qui n'est pas mon métier. Je ne peux pas en dire grand chose.
Bernadette Bricou, ce que nous laisse entendre Bruno, c'est que ce qui le retient, je crois, c'est que ces artistes singuliers, comme dans les contes peut-être, atteignent quelque chose de nous qui est plus juste que si nous étions passés par les fourches de la convention. Est-ce que c'est cela que vous ressentez ?
Oui, ce que dit Bruno me fait penser d'abord, faisait écho à ce texte magnifique de Rimbaud. J'écrivais des silences, des nuits, je fixais des vertiges. Il me semble que l'artiste de l'art brut y fixe des vertiges. Et pour ce qui concerne les contes, parmi les innombrables interprétations des contes qui débordent, que le conte déborde toujours, puisque le conte déborde toujours les interprétations qu'on en donne, mais il y a deux grandes familles d'interprétations et de lectures. Il y a celle qui, comme un Bruno Bettelheim, je vais simplifier à dessein, attribue le pouvoir du conte à la force de sa structure narrative, et donc à la matrice narrative qui nous incite à faire un chemin. Et puis il y a celle qui, dans une perspective bachelardienne, associerait davantage le pouvoir du conte au pouvoir des images. Et il me semble que l'intuition magnifique de Diane de Sellier, qui est à l'origine de ce livre, elle s'inscrit vraiment dans cette perspective-là. Que nous reste-t-il d'un conte lorsque tout a disparu ? Quelquefois le pouvoir d'une image qui, comme celle du rêve, va subsister alors que le reste du conte a sombré dans l'oubli.
J'aime beaucoup ce que vous dites. Ça me fait penser à un propos que vous aviez dans une conversation antérieure que nous avions eue sur une des œuvres qui illustre Cendrillon, le moment où elle entend sonner le premier coup de minuit. Elle s'est pas aperçue que l'heure avait été tout d'un coup amollie ou transformée par la joie qu'elle avait d'être dans ce bal. Et vous pensiez, je crois, à une œuvre de Awam Abdelarazak. C'est bien cela ?
Admirable, admirable.
Vous pouvez nous la décrire ?
Ah, je vais vous la décrire avec mes mots, mais sous contrôle, parce que j'hésite à... Je pense que Bruno le ferait beaucoup mieux que moi. C'est une horloge, et c'est une horloge dont les contours sont déformés, dont les chiffres hésitent, et on a le sentiment que c'est une horloge à l'instant où elle va se défaire, où elle peut devenir en quelque sorte plastique. Et pour moi, cette œuvre admirable évoque vraiment le moment du désenchantement, qui est l'un des moments sur lequel, je crois, on a fait le plus de contresens dans Cendrillon, si je puis parler de contresens, car au fond, toutes les lectures, bien entendu, sont permises dans la liberté de l'imaginaire, mais... C'est l'histoire de la permission de minuit, vous savez, que donne la fée. Il faudra quitter le bal avant que minuit sonne. Dans les versions orales, c'est d'ailleurs « il faudra quitter la messe avant le dernier évangile », du moins dans les versions chrétiennes. Ah oui. Et ce moment du désenchantement, on sait que passé minuit, le carrosse va redevenir citrouille, les lézards... les laquais redeviendront des lézards, le cocher redeviendra un gros rat, et Cendrillon va se retrouver dans ses haillons de tous les jours. Il n'y a qu'un objet dans le conte qui ne se désenchante pas, c'est la pantoufle de verre, qui est d'ailleurs présente dans le titre du conte. Et ce moment, vous voyez, où donc c'est un moment de vertige, où le merveilleux, l'enchantement, cède la place à un réel qui est perçu comme un réel oppressant. Je trouve qu'il y a tout ça dans le dessin d'Awam Abdelahraza, qui appartient d'ailleurs à la collection de Bruno de Charme.
Bruno, bravo d'avoir choisi ce dessin. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'est jamais une illustration. On a vraiment l'impression que ça se rejoint, alors que les artistes n'ont évidemment pas travaillé pour cela, mais c'est d'une telle justesse que ça se rejoint assez miraculeusement, je veux dire. Qui est-ce Awam Abdelahrazak, Bruno?
Alors c'est un monsieur qui est un Marocain qui a travaillé dans une imprimerie comme machiniste. Enfin, il réparait les machines qui servent à imprimer. Et puis il y a eu un problème économique de cette imprimerie qui a fait faillite. Et c'est un monsieur qui s'est retrouvé à la rue et qui a sombré dans des problèmes d'alcool. Enfin, des choses très difficiles. Il en est sorti un petit peu grâce à sa famille qui l'a soutenu. Et à partir de là, il restait un petit peu cloîtré, si je peux dire, chez lui, et il s'est mis à produire une œuvre relativement importante, toujours au style Obille et toujours avec des personnages qui sont en limite de déconstruction, je dirais, où on passe de la figure humaine à la figure monstrueuse, à la figure minérale, où on est dans un espèce d'entre-deux, là aussi extrêmement inquiétant, et la description que vous en faisiez de l'horloge est absolument admirable. Parce que ça colle évidemment parfaitement avec ces 12 coups de minuit, où on a une espèce de sensation où le merveilleux va s'estomper.
Voilà. Je ne sais pas comment vous avez fait, Bruno, pour toujours aller chercher des œuvres là où on n'attend pas l'art, au fond. Il y a quelque chose qui est merveilleux. Buffet en parle d'ailleurs de cela. J'aimerais bien qu'on l'écoute, on va en reparler, parce que c'est aller chercher l'art là où il n'est pas habillé comme de l'art, en fait. On va écouter du Buffet, il en parle.
Le vrai art, il est toujours là où on ne l'attend pas. Là où personne ne pense à lui, ni ne prononce son nom. L'art, il déteste être reconnu et salué par son nom. Il se sauve aussitôt. L'art est un personnage passionnément épris d'incognito. Sitôt qu'on le décèle, que quelqu'un le montre du doigt, alors il se sauve, en laissant à sa place un figurant lauré qui porte sur son dos une grande pancarte où c'est marqué « art », que tout le monde asperge aussitôt de champagne et que les conférenciers promènent de ville en ville avec un anneau dans le nez. C'est le faux monsieur art, celui-là. C'est celui que le public connaît, vu que c'est lui qui a le laurier et la pancarte. Le vrai monsieur art, pas de danger qu'il aille se flanquer des pancartes. Alors personne ne le reconnaît. Il se promène partout, tout le monde l'a rencontré sur son chemin et le bouscule 20 fois par jour à tous les tournants de rue, mais pas un qui ait l'idée que ça pourrait être lui, monsieur art, lui-même, dont on dit tant de bien. Parce qu'il n'en a pas du tout l'air d'être le vrai. Et c'est le vrai qui n'en a pas l'air. Ça fait qu'on se trompe. Beaucoup se trompent.
Vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons de Charles Perrault, l'inventeur des contes de Perrault, et de l'art brut ou de l'art des singuliers de l'art. On vient d'entendre un propos très amusant et très fin, je crois, de Jean Dubuffet, qui fait quasiment de l'apparition du vrai art ou de une sorte de fée qui surgit et qui disparaît dès qu'on veut lui mettre un nom. C'est un petit peu Bernadette Bricout, un conte de fée qui nous raconte là, et je voulais vous interroger parce qu'au fond, là, on parle de l'accueil public de l'art brut, c'est ce à quoi Jean Dubuffet, c'est ce qu'il évoque. Là, il n'y a pas, pour les grands artistes de l'art brut, il n'y a pas de champagne, il n'y a pas de vernissage, etc. Tout ça se fait dans la solitude, d'une certaine façon. Est-ce que les contes de Charles Perrault sont arrivés avec modestie, ou est-ce que tout de suite, ça a été un succès?
Je suis toujours, vous le voyez moi-même, dans une sorte de mise en résonance entre le texte de Perrault et les sources orales dont il s'inspire. Et lorsque j'écoutais le texte de Jean Dubuffet, je pensais effectivement à ces donateurs des contes qui, en règle générale, ils sont aux lisières du conte, ils commentent les actions des hommes, un peu à la manière du cœur antique, mais en même temps, ils ne se drapent jamais des insignes du pouvoir. Il ne se drape jamais des insignes de la notoriété. Le donateur du comte, c'est une vieille à la fontaine dont on va peigner les cheveux, ou c'est un oiseau qui a une aile cassée. Et au fond, ce vrai art dont nous parle Dubuffet dans ce texte, cet art, il est hors les murs, il est là comme une sorte d'exilé. Et en écoutant le texte, vous me pardonnerez là encore de vous dire immédiatement à quoi ça fait écho. Je pensais à cette définition magnifique qui avait été donnée du comte, pas du tout par un universitaire, pas du tout par quelqu'un qui avait pignon sur rue. C'était dans un séminaire avec des étudiants de licence et je leur avais demandé de noter par écrit la manière dont ils définissaient le comte. Et un étudiant tunisien, avait répondu ceci que je n'ai jamais oublié. Le conte, c'est cette parole orpheline, peut-être même bâtarde, car elle ne connaît pas son père et qu'elle est condamnée à chercher en nous sa maison. Alors, le conte, oui, le conte cherche sa maison en chacun de nous. Et vous voyez là encore à quel point cette définition fait véritablement écho au projet de ce livre. Pour ce qui est des contes de Perrault, la fortune, elle a été la fortune des contes, elle est liée à plusieurs vecteurs, parce que ces contes venus des sources orales, venus de la tradition populaire, y sont retournés par le biais de la littérature de colportage, la bibliothèque bleue de Troyes, c'est-à-dire les livres de poche avant la lettre, la bibliothèque que les colporteurs donc vendaient dans les villages et qui était en général lue par celui qui avait fait quelques études au petit séminaire, par l'imagerie d'Épinal, qui a été un vecteur de transmission considérable, et bien sûr par les éditions pour la jeunesse. Mais c'est peut-être là on s'aperçoit que les contes de Perrault, qui sont à la fois extrêmement familiers, et la lecture du livre de Diane de Cellier le montrera à ceux qui auront la chance ou qui ont eu la chance d'entrer dans ce livre comme dans une exploration, mais on s'aperçoit que ces textes, on ne les connaît plus parce qu'ils ont été en quelque sorte adaptés, réécrits, censurés à l'usage de la jeunesse. Il y a quelque chose qui le dit magnifiquement, ce sont les illustrations des éditions pour la jeunesse. On s'aperçoit par exemple, on parlait du petit chaperon rouge tout à l'heure, qu'à l'époque de Perrault, au XVIIe siècle, dans les premières éditions du petit chaperon rouge, elle a 15 ou 16 ans, c'est-à-dire tous les insignes d'une séduction qui est celle de la moralité envers de Perrault. Le loup est un loup humain dont il faut se défier. Aujourd'hui, elle a 3 ou 4 ans à peine. Et le message, la moralité envers de Perrault a disparu, et le message initial du conte aussi. Pardonnez-moi, j'ai été trop longue.
Non, pas du tout. Je pense que c'est très intéressant. Il y a deux choses donc c'est cet affaiblissement en fait que l'on a opéré sur les contes et leur vraie écriture, par le souci d'être adapté aux enfants ou adapté à un public non spécialisé. Et en fait, je pense qu'on a enlevé une partie de leur puissance, de leur charme et de leur efficacité sur l'éducation. Et c'est une chose dont je voudrais qu'on parle ensemble. Et puis, il y a un autre aspect que j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit. Ce que disait cet étudiant tunisien, c'est que ces contes cherchent leur maison et il n'y a pas de doute, je crois, Bruno de Charme, on voit les œuvres que vous avez rassemblées, on voit et que vous avez choisies, vous avez travaillé aussi avec votre complice et ami, je crois, Antoine de Galbert, là-dessus, c'est la façon dont on est habité nous-mêmes. Ils cherchent une maison et nous sommes vraiment la maison de ces œuvres et de ces textes, n'est-ce pas ?
Je pense que quand vraiment le mot œuvre orpheline prenne vraiment tout leur sens dans ces histoires-là, puisque ces gens sont abandonnés, faut le savoir, ils sont abandonnés dans les rues, abandonnés dans des hôpitaux, ils sont abandonnés souvent par leur famille, et leurs œuvres sont la plupart du temps détruites. Donc c'est vrai que je pense que nous collectionneurs et autres, hein, bien entendu, les accueillons en quelque sorte. Et d'ailleurs, en tant que collectionneur, la position de propriété est extrêmement compliquée, en tout cas pour moi, et je pense pas être le seul. C'est-à-dire qu'on se sent vraiment pas propriétaire de tout ça.
Alors bon, vous êtes dépositaire plutôt.
On est dépositaire et transmetteur, vraiment transmetteur au-delà de l'aspect pécunier qu'il peut y avoir maintenant, parce qu'effectivement il y a un marché, mais je dirais que tout ça c'est pas secondaire, mais enfin c'est pas l'essence de tout ça. Mais on est vraiment dépositaire, et tout collectionneur à un moment se pose la question: que faire de ces œuvres orphelines le jour où je ne serai plus là? Et c'est une véritable question, parce que les remettre dans le monde, il faut être certain que bah ils iront dans d'autres belles maisons. Voilà. En tout cas, moi, c'est une question qui me hante réellement.
On peut dire quand même que Dieu sait que ces œuvres aujourd'hui nous apparaissent importantes, et vous avez raison de rappeler, il n'y a pas de honte à cela, que le marché maintenant les célèbre après les avoir ignorées longtemps. Les collections nationales ont mis beaucoup de temps, et je crois que même au Musée national d'art moderne, il y a très très peu d'ouverture sur cette question de l'art brut, non ?
Alors, il semblerait peut-être que les ouvertures commencent, les portes commencent à s'ouvrir, parce qu'il est certain qu'aujourd'hui il y a un vide absolu. C'est même assez extraordinaire que des musées aussi fabuleux et ignorés. Alors, il y a un tas d'explications aussi à ça, des explications politiques au sens le plus large du terme, des attitudes des uns et des autres, pas toujours qui permettaient le dialogue. Mais là, je pense qu'on est à un moment, et Jean, vous en êtes, vous avez été largement acteur dans vos expositions et dans vos démarches, d'un intérêt pour cet art, et que je pense que les choses bougent considérablement, et que ces grandes institutions se rendent compte qu'il y a là un territoire absolument extraordinaire qui peut dialoguer, parce que ça c'est mon point de vue à moi, il faut que ça dialogue dans l'histoire de l'art, parce que même si cet art s'est constitué en dehors de tout, dans la marge sociale, la marge psychique et tout ce qu'on peut imaginer, ces productions deviennent des œuvres d'art en tant que telles, et par conséquent elles ont leur place dans l'histoire de l'art, et il faut leur donner place et place au dialogue. En tout cas, moi, c'est ce que je rêve pour l'avenir de cet art brut.
Alors, on va donner la parole à Charles Perrault, parce que je sais que ça fera plaisir à Bernadette, parce que Charles Perrault, à un moment donné, nous dit, lui, ce qu'il veut entendre de ses enfants, ce qu'il veut donner à entendre à ses enfants, et qui ne sont pas seulement des enfants, d'ailleurs, parce que c'est largement et très largement lu et désiré par les adultes. On va l'écouter quelques instants, et il nous restera juste quelques secondes pour conclure.
Quelques frivoles et bizarres que soient toutes ces fables dans leurs aventures, il est certain qu'elles excitent dans les enfants le désir de ressembler à ceux qu'ils voient devenir heureux, et en même temps la crainte des malheurs où les méchants sont tombés par leur méchanceté. N'est-il pas louable à des pères et à des mères, lorsque leurs enfants ne sont pas encore capables de goûter les vérités solides et dénuées de tous agréments, de les leur faire aimer, et si cela se peut dire, les leur faire avaler, en les enveloppant dans des récits agréables et proportionnés à la faiblesse de leur âge. Il n'est pas croyable avec quelle avidité ces âmes innocentes, et dont rien n'a encore corrompu la droiture naturelle, reçoivent ces instructions cachées. On les voit dans la tristesse et dans l'abattement, tant que le héros ou l'héroïne de conte sont dans le malheur, et s'écrier de joie quand le temps de leur bonheur arrive. De même qu'après avoir souffert impatiemment la prospérité du méchant ou de la méchante, ils sont ravis de les voir enfin punis comme ils le méritent. Ce sont des semences qu'on jette, qui ne produisent d'abord que des mouvements de joie et de tristesse, mais dont il ne manque guère d'éclore de bonnes inclinations.
C'était Charles Perrault que l'on entendait, c'était son introduction pour dire l'orientation qu'il voulait donner à ses contes comme élément d'éducation. Et Bernadette Bricout, en même temps, il y a tout, plein de choses que je voudrais vous demander. Il nous reste plus que 3 minutes pour les évoquer, mais peut-être que vous pouvez nous éclairer sur 3 choses. Est-ce que les vrais destinataires pour Perrault étaient vraiment les enfants, ou est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture qui font que c'était, ça allait au-delà? Et la deuxième chose, il faudra quand même que vous nous disiez qui est la mère Loi.
Alors, en ce qui concerne les destinataires des contes, c'est vrai que le texte de Perrault va dans le sens, en tout cas pourrait aller dans le sens de ces contes qu'on livre aux enfants. Ces contes dont on imagine souvent qu'ils ont été conçus pour les enfants, alors que dans la tradition orale, les seuls contes conçus pour les enfants sont des contes d'avertissement, c'est-à-dire des contes qui se terminent mal et qui visent à mettre en garde l'enfant contre un danger possible. Tous les autres contes s'adressaient à l'ensemble des générations et je crois que le projet de ce livre recouvre bien l'ensemble des générations. Des livres à lire en famille, et Bruno parlait de dialogue. Je crois que cette notion de dialogue est très importante parce qu'on peut faire dialoguer les lectures et la perception que nous avons des contes. À tous les âges de la vie, le conte nous parle et peut nous dire des choses différentes. Vous évoquiez le texte introductif de Perrault, et moi je pensais à un autre texte, celui de Pierre d'Armancourt dans sa lettre préface, qui nous rappelle que les monarques pourraient bien se risquer jusque dans des huttes et des cabanes pour y entendre des récits dont la richesse se découvre plus ou moins selon le degré de pénétration de ceux qui les lisent.
Oui.
Les contes ont aussi des choses à dire aux décideurs, aux puissants, aux gens qui font partie de cette vitrine qu'évoquait Dubuffet. Et donc la notion de dialogue entre culture savante et culture populaire, elle est permanente, me semble-t-il.
En quelques secondes, qui est la mère Loi ?
La mère Loi, l'expression existe dans les dictionnaires historiques avant Perrault. La mère Loi, c'est véritablement cette figure que l'on voit sur le frontispice de l'édition originale, une vieille femme, dévidante et filant, et faisant de beaux contes aux enfants qui l'entourent. Mais cette mère Loi, pour moi, elle est vraiment l'archétype de toutes ces conteuses et de ces conteurs d'ailleurs, qui ont pu inscrire dans les contes, dans l'écriture des contes, dans la langue des contes, des gestes qui sont souvent des gestes d'artisans, des gestes de fabricants qui avaient un sens et un ordre. Et ça pourrait être aussi une autre lecture.
Grâce soit rendue donc à la mère Loi et aussi à Diane de Cellier et à vous-même Bernadette Bricou et Bruno Decharme. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est l'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Bernadette Bricou et Bruno Decharme pour parler de la publication aux éditions Diane de Cellier des contes de Perrault illustrés par l'art brut. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. C'est une émission conçue en collaboration avec Sam Boutata, chargée de recherche Maureen Roy, à la technique Anthony Thomasson, réalisation évidemment Thomas Jost et lecture des textes Hélène Nosseur. La semaine prochaine, nous serons dans l'art grec et romain, mais dans quelques instants, Jukebox par Amaury Chardot. Bon après-midi sur France Culture.